Libres de nos chaînes, nous voulons porter la lumière du Christ autour de nous. Et c'est bien dans ce sens-là que Jacques nous invite et nous voulons lire ensemble la lecture du jour. Jacques chapitre 2, versets 1 à 13. Jacques chapitre 2, versets 1 à 13. Et je lis dans la version du Semeur. Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre à mes pieds. » Ne faites-vous pas des différences parmi vous? Ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Écoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre? Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu ou à la loi royale, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, et même s'il obéit à toute la loi, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Mais la pitié triomphe du jugement. Jusque-là. Que ta parole, Seigneur, nous éclaire, nous conduise dans notre vie de tous les jours. Que tu te rendes présent au travers d'elle maintenant. Amen. L'église dans laquelle j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage pastoral, voilà pas mal d'années en arrière, effectuait un travail de rue parmi les toxicomanes et certains d'entre eux participaient parfois au culte. Et un dimanche matin, l'un d'eux est venu en patin à roulettes dans la salle de culte et on peut se demander, mais comment fallait-il réagir? Fallait-il lui signaler qu'on n'entre pas dans la salle de culte en patin à roulettes? Ou fallait-il plutôt exprimer notre joie qu'il soit là à vouloir rencontrer le Seigneur avec les autres? Dans une autre église, les notables avaient fait inscrire leur nom sur les bancs de l'église. Ils avaient leur banc réservé sur le devant de la salle. Est-ce que c'était légitime que certaines familles parmi les plus influentes dans l'église se voient ainsi marquées d'une manière, enfin désignées d'une manière toute spéciale l'attention de tous? Dans une autre église encore, la communauté hésitait à adopter un recueil de chants. Il fallait, enfin, toute une aile de l'église souhaitait pouvoir chanter des chants plus contemporains, plus vivants. Et une partie des gens s'opposait à l'adoption de ce recueil. Et un dimanche matin, toute l'église a eu la surprise de voir que ces recueils étaient là, sur les bancs, sans que personne n'ait rien décidé. On a appris après coup que c'était une famille de riches industriels qui avait décidé d'acheter ces recueils pour faire avancer les choses. Est-ce qu'il fallait se réjouir qu'on ait financé ces recueils, ou il fallait plutôt être inquiet du pouvoir donné à l'argent? Eh bien, c'est ce genre de questions que Jacques essaie d'évoquer dans le texte que nous venons de lire. Cette question de la différence entre les croyants en fonction du statut social, de la richesse, de l'ethnie, du sexe, homme ou femme, c'est cette question qui préoccupe Jacques, le frère de Jésus. Jacques est un des piliers de la première église qui est née, l'église mère de Jérusalem. Une église qui est connue pour être relativement pauvre. En acte 2, nous apprenons qu'il y avait une forme de solidarité qui s'exerçait dans cette église. Les croyants les plus riches mettaient leurs biens au service des plus pauvres. On mettait tout en commun, en fait, et on s'entraidait. Mais ce n'est pas allé sans difficulté. Il y a eu des tensions. Il y a eu des problèmes à vouloir s'entraider. En acte 6, nous apprenons que cette solidarité a commencé à être différente, à être appliquée différemment en fonction de l'origine de la personne. Les veuves recevaient de l'aide, mais les veuves d'origine étrangère n'étaient pas aussi bien traitées que les veuves qui étaient d'origine juive. On apprend encore un peu plus loin que cette église de Jérusalem est particulièrement éprouvée par la famine et qu'elle reçoit de l'aide. Plus tard même, Paul fera une collecte pour l'envoyer parmi les pauvres de Jérusalem. De cette église de Jérusalem vont naître toute une autre série d'églises dans la Galilée, jusqu'à Antioche, tout le long de la mer Méditerranée. Des églises marquées elles aussi par la pauvreté, marquées par la migration, parce que la persécution a sévi à Jérusalem, les chrétiens ont dû fuir, et ils sont devenus des migrants dans des nouvelles communautés qui étaient formées. Dans ces communautés se côtoyaient des pauvres, des migrants aussi, et quelques riches, quelques très riches. Et la question se pose de savoir comment vit-on les rapports entre ces personnes d'origine modeste qui n'ont pas de repères parce qu'elles sont migrantes, et puis des personnes qui ont bien réussi dans la vie, qui ont acquis beaucoup de biens. La tentation existe certainement pour les pauvres de se dire « si nous avons des riches, nous allons bien les traiter. Nous allons faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise parmi nous et qu'ils puissent être généreux au milieu de nous. » Mais est-ce que faisant ainsi, on ne commence pas à opérer des distinctions entre les personnes ? Jacques, en écrivant sa lettre, évoque principalement trois thèmes, celui de la tentation. Et la richesse ou la pauvreté amène à la tentation. Jacques évoque un deuxième thème, celui de la sagesse. Comment régler avec sagesse les relations entre les membres de la communauté? Et il évoque ce troisième thème qui est celui des distinctions sociales qui peuvent être marquées dans la communauté. Comment les gérer au mieux? Et les distinctions étaient marquées et marquantes dans ces nouvelles églises. Et pour présenter cette situation, pour essayer d'aider les chrétiens à réfléchir à ces questions, il prend un cas pratique. Il dissèque une situation donnée pour essayer de voir comment, bibliquement, nous pouvons répondre à ces questions-là et comment nous pouvons changer de manière de penser et d'agir si nous ne sommes pas sur la bonne voie. Dans les versets 2 à 4, Jacques va évoquer la problématique. Il part du constat suivant. Si quelqu'un a foi en Jésus, on devra pouvoir le vérifier dans la manière dont il agit dans sa vie quotidienne. Parce que la foi ne peut pas être simplement un beau discours. La foi doit amener une manière de se comporter avec les autres qui est différente de celui qui n'a pas la foi. La foi doit transformer ma manière d'être dans mon quotidien. Et le quotidien n'est rien d'autre qu'un terrain d'exercice pour mettre ma foi en œuvre. pour tester la foi de quelqu'un, il faut voir comment il vit dans la vie de tous les jours. Et c'est là, sur ce terrain d'exercice de la vie quotidienne, que le croyant peut grandir dans sa foi, qu'il peut expérimenter la présence de Dieu, qu'il peut se laisser interpeller et aller plus loin. Jacques vérifie donc la foi sur le terrain pratique et il propose un cas. Il s'interroge sur ce qui se passe à l'entrée de la salle de culte. L'Église, c'est bien le corps du Christ, c'est bien le peuple de ce que Dieu a choisi. Eh bien, que se passe-t-il si deux visiteurs arrivent dans l'Église pour adorer Dieu? L'un, vêtu d'habits somptueux, une bague au doigt, ce qui témoigne d'un niveau de vie vraiment important, aisé. Et l'autre, juste à côté, un miséreux qui est couvert d'habits malpropres. Comment va-t-on accueillir ces deux personnes? Allons-nous les traiter sur un pied d'égalité? Ou va-t-on s'empresser de s'occuper du riche et de lui proposer la plus belle place qui reste encore sur les bancs de l'Église, alors que l'Église est tellement pleine à craquer qu'on dira aux pauvres « Écoute, va te tenir là-bas, debout, dans le coin, il y a encore une petite place. » Ou bien « Mets-toi par terre, à mes pieds, ou aux pieds de celui qui est assis juste là. » Comment allons-nous traiter les uns et les autres dans la communauté? Est-ce que le statut social, est-ce que le rang va jouer un rôle? Et Jacques écrit, verset 1, « Que votre foi soit exempte de toute forme de favoritisme. » Ou comme le transcrit Kuhn dans sa version du Nouveau Testament, qui dit « Rappelez-vous que la foi est inconciliable avec une attitude partiale inspirée par des préjugés de classe. » Qu'est-ce que la partialité? Ou qu'est-ce que le favoritisme? Le favoritisme intervient lorsque nous établissons des distinctions entre les gens ou des jugements qui sont basés sur des considérations extérieures comme l'apparence physique. Comment est-il vêtu? Porte-t-il la cravate ou non? De quel sexe est-il, homme ou femme? Quel est son statut social? Quel est son parcours académique? De quelle ethnie ou de quelle race est-il? Eh bien, lorsque nous commençons à établir des distinctions sur ce genre de critères externes, nous nous opposons à Dieu. Dieu ne fait jamais cela. Dieu demande d'être impartial envers tous. Nous sommes des frères et des sœurs en humanité. Mais nous sommes aussi des frères et des sœurs dans la famille de Dieu. Nous partageons la même foi. Or, quand nous sommes des frères et des sœurs, c'est que nous avons des liens de sang. Et même dans la famille du Seigneur, nous avons des liens de sang, ce sang qui a coulé à la croix pour nous faire entrer dans une seule et même famille. Vous connaissez sans doute autour de vous des familles qui ont fait du favoritisme à l'égard de leurs enfants. Et qu'avez-vous pu observer? Généralement, lorsqu'on fait du favoritisme, eh bien, on provoque des dégâts qui peuvent être irrémédiables, qui vont déchirer des familles, parfois sur plusieurs générations. Eh bien, dans la famille du Seigneur, on ne peut pas non plus faire de favoritisme. Parce que faire du favoritisme, c'est une manière de nier l'œuvre du Christ à la croix, de nier que nous sommes unis par les liens du sang du Christ. Personne n'a été sauvé en fonction de ses mérites, de son parcours, de son rang social. Nous avons tous été sauvés parce que nous étions des pécheurs et que Dieu a eu pitié de nous. C'est ce que Paul dit dans les Galates. Il dit « Il n'y a désormais plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Christ, vous êtes tous un. » Or, quand nous faisons du favoritisme, Nous commençons à introduire des différences entre les gens. Nous introduisons une échelle de valeurs qui conduit à élever certains et donc forcément à abaisser d'autres. Et lorsque nous opérons ce genre de ségrégation ou de discrimination, nous nous plaçons rarement dans ceux que nous abaissons. Donc il y a une forme d'orgueil. Cela va plus loin, ça suggère chez celui qui opère ces discriminations qu'il est supérieur spirituellement aux autres. Or, aucun chrétien ne peut penser qu'il est supérieur aux autres. Préférer un chrétien à un autre parce qu'il serait plus riche, parce qu'il est mieux habillé, parce qu'il a de la facilité à parler, parce qu'il a de bonnes manières, parce qu'il a du succès. Cela revient à oublier que Christ est mort pour tous, de la même manière. Personne n'a plus de mérite que les autres. Nous avons tous été pécheurs. Et Christ a montré combien nous avons tous besoin de la grâce, de la même grâce. Nous avons tous reçu le même salut, indépendamment de notre parcours personnel. Dieu n'établit jamais de distinction. Jacques connaît l'Ancien Testament, il le connaît même très bien. Quand il évoque cette question du favoritisme, nous pouvons être à peu près sûrs qu'il pense, qu'il a à l'esprit le livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 10, qui dit ceci: « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs. Il ne fait pas de favoritisme et il ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. » Jacques a certainement un autre texte à l'esprit, Lévitique 19, verset 15, qui dit ceci: Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. En d'autres termes, un favoritisme qui est basé sur des considérations externes, sur l'apparence, eh bien, s'oppose à la manière d'agir de Dieu. Alors il est peut-être bon ici d'apporter quand même une précision. Si Jacques dénonce le favoritisme, il ne s'oppose pas au fait qu'il y ait des distinctions légitimes entre les gens. Il y a des distinctions de rang qui nécessitent le respect. Par exemple, nous devons honorer les autorités dans le domaine temporel. Ou dans l'Église, nous devons respecter ce que Dieu a placé dans une position d'autorité. Et Dieu reconnaît le besoin d'avoir des structures qui amènent l'ordre. Ces structures sont la famille, ce sont l'État et l'Église. Il est légitime que l'on reconnaisse les personnes en situation d'autorité. Ce que Jacques condamne, ce n'est pas ces distinctions-là, ce sont des discriminations qui sont opérées uniquement sur le plan externe, sur des critères qui sont mondains, qui sont centrés sur l'apparence. Que voyons-nous si nous allons dans un kiosque et que nous regardons les couvertures de magazines? La plupart du temps, nous verrons la valorisation de gens qui ont réussi, qui sont riches, qui sont puissants. Les pauvres n'apparaîtront pas. Eh bien, nous sommes invités à avoir un autre regard sur nos frères et nos sœurs. Jacques nous pose une question toute pratique ce matin. Y a-t-il, par exemple, des conditions à remplir pour pouvoir participer au culte du tabernacle? Devons-nous, avant d'entrer dans cette salle, remplir un certain nombre de critères? Ou acceptons-nous que chacun puisse y venir tel qu'il est? La question qui se pose est la suivante, c'est: devons-nous d'abord être transformés avant de pouvoir entrer dans la présence de Dieu? Ou souhaitons-nous que les gens puissent venir dans la présence de Dieu et être touchés par cette grâce qui va les transformer par la suite? Et lorsque nous établissons des distinctions, nous demandons implicitement aux gens d'être d'abord transformés avant de faire la rencontre de Dieu. Et là, nous trahissons l'Évangile. Ne faites pas de différence parmi vous, dit Jacques. Ne portez pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons. Après avoir présenté cette situation de l'accueil de visiteurs dans l'Église, Jacques réfléchit, versets 5 à 7. Il dit « Écoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous méprisez le pauvre ?» Dans ces quelques versets, Jacques nous pose deux questions. La première, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Nous allons, de manière naturelle, privilégier les riches, les gens qui ont du succès. Et Jacques renverse ce raisonnement naturel en disant, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Il renverse les dynamiques. Christ n'est-il pas venu pour prêcher aux pauvres? Considérez un peu les églises, ne sont-elles pas remplies finalement, majoritairement, de gens qui sont pauvres et de gens ordinaires? Alors, puisque Dieu a choisi ces gens-là, puisqu'il les a aimés, avons-nous le droit de les traiter comme des croyants de seconde zone? Est-ce que ce n'est pas mépriser ce que Dieu a fait pour eux? Là encore, notez bien que s'il est dit que Dieu a choisi les pauvres, ce n'est pas pour dire que tous les pauvres, de par leur situation de pauvreté, hériteront du royaume de Dieu. L'expression « les pauvres » désigne plutôt des gens qui étaient opprimés, méprisés dans le monde, qui n'avaient aucune reconnaissance parce qu'ils étaient au bas de l'échelle, mais des gens que Dieu a reconnus parce qu'ils avaient une ouverture spirituelle et qu'ils étaient prêts à s'approcher de Dieu. Voilà qui sont les pauvres qui sont décrits ici. Des gens qui n'ont aucune reconnaissance dans la société. Jacques ne dit pas que tous les pauvres seront sauvés. Il ne dit pas non plus que tous les riches sont exclus du royaume de Dieu. Mais il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un pauvre. Jacques pose une deuxième question pour évaluer notre pratique. Il demande de manière toute pragmatique, est-ce que ce ne sont pas les riches qui vous exploitent et vous oppriment en vous traînant devant les tribunaux? Donc est-ce que ce n'est pas un peu irrationnel de donner sa préférence à des riches, de les traiter comme s'ils n'étaient pas aussi pécheurs que les pauvres? À partir de ces deux questions, Jacques en vient à proposer un correctif. Et quelque chose qui n'est pas tout facile à entendre, je pense. Versets 8 à 13. Nous vivons dans des ornières. Nous avons des habitudes de fonctionner. Nous ne nous rendons parfois même plus compte de notre manière de fonctionner. Comment pouvons-nous, de manière pratique, accorder à tous dans la communauté les mêmes privilèges, les mêmes honneurs, sans faire de favoritisme? À partir du verset 8, Jacques affirme que le chrétien va être jugé par une loi. Une loi qui inclut comme exigence fondamentale d'aimer son prochain. Et il dit que cette loi, c'est la loi royale, une loi toute particulière. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là que la conversation devait commencer à devenir gênante pour ceux qui lisaient ou écoutaient Jacques. Parce qu'il pouvait lui rétorquer, écoute Jacques, attends un peu. Est-ce que tu es en train d'insinuer que nous n'aimons pas notre prochain? Est-ce que tu voudrais nous faire dire que nous ne sommes pas chrétiens? Comment peux-tu laisser entendre que nous ne serions pas pleins d'amour envers le prochain? Écoute Jacques, tu sais le problème, c'est que simplement on ne peut pas passer raisonnablement du temps avec tout le monde dans l'Église. Ce temps nous manque. Et puis ces gens-là sont des personnes importantes, il faut qu'elles sachent qu'on les reçoit dans l'Église, que nous sommes reconnaissants pour qui elles sont, qu'elles puissent se sentir bien dans l'Église. C'est vrai, notre temps n'est pas illimité et nous ne pouvons pas passer du temps avec tout le monde. On ne doit pas forcément se sentir coupable de ne pas avoir ce temps pour tous. Mais Jacques est perspicace. Il sait bien où le bât blesse et il sait qu'il est tellement facile de se persuader d'être un chrétien fidèle au Seigneur. Alors il pousse un tout petit peu plus loin. Il dit, si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché. Et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Si vous faites des différences entre les personnes, non pas si vous ne l'aimez pas, mais si vous faites des différences entre les personnes. Cette loi royale, elle vient encore une fois du Lévitique. Le Lévitique disait, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et quand on va demander à Jésus quel est le plus grand commandement, Jésus va citer ce texte du Lévitique et dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais voilà le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Paul va redire la même chose en disant « L'amour ne fait pas de mal au prochain. » Et donc l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et Jésus va encore ajouter « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc en d'autres termes, la loi royale, c'est la voie royale pour obéir à Dieu. Et cette voie royale, c'est d'aimer son prochain. Comment devons-nous agir en tant que chrétiens ? En aimant notre prochain. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de respect de la loi. Aimer l'autre, c'est une manière de montrer qu'on aime Dieu. Alors quelqu'un va peut-être se dire, mais oui, on peut aimer, mais jusqu'où faut-il aimer ? Y a-t-il une limite à cet amour à donner ? Et Jacques n'évoque aucune limite. Il n'y a jamais de limite qui puisse dire « j'ai assez aimé mon prochain ». Jésus va même plus loin, il dit que nous devons aimer l'autre autant que nous nous aimons nous-mêmes. Et que nous devons agir envers l'autre comme nous agirions envers nous-mêmes. Donc nous devons bénir les autres. Nous devons avoir de l'intérêt pour les autres. Concrètement, Jacques nous propose trois pistes. Il nous dit, si vous voulez maintenant mettre cette loi royale en œuvre, si vous vous rendez compte que vous avez fait du favoritisme et que vous voulez maintenant obéir à Dieu, voilà ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez reconnaître votre péché. Vous devez reconnaître que vous avez agi, parfois même ça dans votre esprit, sans que vous le fassiez de manière visible, mais que dans votre cœur, vous avez fait preuve de partialité envers certaines personnes, que vous avez privilégié les aspects extérieurs plutôt que de voir la personne comme Christ la voit. Et bien, si vous vous rendez compte de cela, repentez-vous. Si vous faites du favoritisme, dit Jacques, verset 9, vous commettez un péché. Et vous êtes condamné. Et chaque fois que l'on aime certains prochains plus que son prochain, nous faisons du favoritisme. Si nous nous repentons, la deuxième piste que Jacques nous donne pour mettre cette loi royale en pratique, eh bien c'est d'obéir à Dieu, d'accepter d'obéir à sa loi. Il nous dit ceci, versets 10 et 11, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, eh bien, tu désobéis bel et bien à la loi. En d'autres termes, Jacques nous dit, vous pensez être de bons chrétiens ? Oui, certes, vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait, mais à part un ou deux détails, vous observez bien les commandements du Seigneur et vous pensez peut-être que le Seigneur peut être fier de vous. Mais Jacques explique que la transgression d'un seul commandement entraîne la culpabilité à l'égard de toute la loi de Dieu. La volonté de Dieu est une et indivisible. On ne peut pas dire « Oh, j'ai juste désobéi à ce petit bout de la volonté de Dieu ». Non, c'est un peu comme si vous marchiez sur une corde raide. Il s'agit d'aller jusqu'au bout. Si vous tombez une seule fois de la corde, vous êtes tombé définitivement de la corde. Eh bien, il en va de même. Si nous transgressons un seul commandement, nous désobéissons à la volonté de Dieu dans son ensemble. Disant cela, Jacques met au jour l'illusion du légalisme. Parce que tellement facilement, nous sommes tentés de nous justifier par nous-mêmes. Nous voulons prouver que nous avons bien observé tous les petits détails de ce que Dieu nous demande de faire. Et les Juifs étaient très forts pour cela. Et d'ailleurs, Jésus s'est beaucoup confronté à eux. Mais les pharisiens, qui étaient tellement forts à observer le plus petit détail de la loi, n'arrivaient plus à voir la monstruosité de leurs actes. Alors qu'ils observaient des petits détails, ils ne voyaient plus qu'ils n'observaient plus la loi dans son ensemble. Ils n'étaient plus ni bons, ni compatissants, ni bienveillants à l'égard des autres. Le légaliste cherche à obtenir son salut par lui-même. Il veut obtenir le ciel par ses efforts. Le légaliste cherche à se recommander à Dieu et à obtenir sa faveur en faisant du mieux qu'il peut, à la sueur de son propre front. Et il va toujours estimer que Dieu se devrait de sauver ceux qui cherchent sincèrement à obéir à la loi. Le problème, c'est que n'y arrivant jamais, inconsciemment, il va toujours s'octroyer certains petits détours et dire que certains de ses péchés sont quand même admissibles, qu'ils ne sont pas si graves que cela. Il s'aveugle sur sa situation spirituelle. Et du coup, il se refuse de voir que de ne pas observer même un petit détail de la volonté de Dieu, c'est transgresser la volonté de Dieu. La troisième piste que Jacques donne après avoir dit « Reconnaissez-vous comme coupable, reconnaissez que vous ne pouvez pas transgresser un seul petit commandement. » Troisième élément qu'il nous donne pour que la foi ne soit pas qu'un beau discours, c'est de nous souvenir du jugement. Il dit, versets 12 et 13, « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. » Dieu va juger, sans pitié, celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Mais la pitié triomphe du jugement. Un jour, Dieu va nous juger. Un jour, nous serons devant lui, face à son tribunal. Et la question qui va se poser, c'est « Quel est le fruit que j'ai porté ? Quel est le fruit de ma vie ? Ma vie a-t-elle porté du bon fruit ? Ce bon fruit témoigne-t-il de ma foi en Jésus ? Ou ce fruit est-il pourri sur l'arbre parce qu'un ver y a pénétré et que le fruit n'est plus bon à manger ? À quoi Dieu va-t-il juger d'une vie réussie ? Du fruit de notre vie ? Le critère qui nous est donné, c'est la miséricorde. Si nous avons eu miséricorde des autres, si nous avons eu pitié des autres, si nous avons eu de la bonté à l'égard des autres, Dieu va manifester la même pitié et la même bonté à notre égard. Mais si nous avons eu une attitude partiale, dépourvue de cette bonté envers tous, si nous avons favorisé certains, si nous avons vécu une vie chrétienne faite de contradictions avec la grâce donnée à tous, alors Dieu s'estimera offensé. Dieu sera en colère contre celui qui a mal utilisé la grâce qui lui a été faite. Et Dieu ne peut pas tolérer cette complaisance avec le péché. Et quand nous serons devant le tribunal de Dieu, nos actes seront mis en lumière. Si nous avons été bons avec les autres, cela plaidera en notre faveur. Cela témoignera d'une foi qui a été mise en œuvre, qui a porté du fruit. Si nous n'avons pas eu cette miséricorde à l'égard des autres, cela sera un signe qui montrera que nous avons trahi le Seigneur, trahi la grâce qu'il a voulu témoigner à notre égard. Et nous aurons à répondre de cela. Personne ne pourra être sauvé par la miséricorde qu'il a accordée aux autres. Nous aurons tous failli. Mais cette miséricorde que nous aurons témoignée aux autres va être comme une forme de témoin devant le tribunal du Christ pour dire « Ce frère ou cette sœur a cherché à mettre sa foi en œuvre et par la grâce de Dieu, il a été une lumière, un témoin de ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants. Il a pu porter cette lumière autour de lui. Il a mené une vie qui était en bénédiction pour les autres. Qu'il puisse entrer dans la présence du Père et vivre de la bonté éternelle de notre Dieu. Nous sommes invités ce matin à de la lucidité, à nous examiner pour vivre une vie qui honore Dieu. Et nous voulons tout à l'heure prendre la scène, et cette scène nous rappelle que nous ne pouvons pas la prendre indignement, et la prendre dignement, c'est la prendre en étant conscient que nous ne pouvons pas faire de favoritisme, pas de distinction sociale entre les uns et les autres. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il nous maintienne dans sa grâce, qu'il nous donne la joie de le suivre. Amen.